Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Marande qui va nous parler de son recueil Galéja des Calambres d'Aisne, publié en auto-édition. Paul Astier pour son roman Poussière d'amour, publié également en auto-édition. Et Raymond Hiss qui nous fera la lecture de sa nouvelle Quint. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien.
Ça va, merci.
Oui, merci, merci, ça va.
Alors pour nos auditeurs, je tiens à m'excuser, mais il y a des travaux dans le bâtiment et il va y avoir un peu de bruit. Désolée. Alors nous allons commencer avec Yves Marande et son recueil Galéja des Calambres d'Aisne. Alors Yves, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, romans policiers, autres romans, nouvelles insolites, pièces de théâtre, histoires pour enfants en prose ou en vers, nouvelles revisitant les théorèmes et figures géométriques à l'adresse des collégiens, livres photos.
Oui.
Alors pourquoi écrivez-vous ?
Pourquoi j'écris ?
Oui.
J'ai toujours écrit.
Vous avez toujours écrit ?
Je me demande si j'ai pas écrit avant de commencer à parler, moi je me demande.
Ah bon ? Ce serait un petit peu surprenant, mais
ouais,
bon.
Ouais, mais on sait jamais.
On ne sait jamais.
Non, j'ai toujours écrit en fait. J'avais besoin de me confier.
Oui.
Et en fait, moi, la manière de le faire, c'était par écrit, de m'exprimer.
D'accord.
Et j'avais besoin d'écrire. Et puis je voulais aussi aller dans un autre monde avec ma tête, mon imagination. Je suis parti écrire plein de choses.
D'accord. Ah, c'est un plaisir donc.
Ah, c'est un plaisir.
Mm-hmm.
C'est un plaisir, une passion depuis très longtemps.
Alors, en prologue, vous écrivez « Diantre, Fichtre, Bivezé, Saperlipopette, Baliverne, Faribole, Fadès, Calambre d'Aisne, Sornette, Carabistrouille, Galéjade, Coxigru, Mazette. » J'avais oublié Mazette. « Ces mots sentent bon la France des siècles précédents. » Vous aimez jouer avec les mots ?
J'adore.
Oui.
J'adore aussi la musicalité des mots, les sons.
Oui.
Et ce que je voulais aussi, c'était... parce que Galéjade et Calambre d'Aisne sont des mots plus beaucoup utilisés.
Oui.
Et certains me disaient, ça veut dire quoi Galéjade ? Ça veut dire quoi Calambre d'Aisne ? Alors j'ai dit, tiens, je vais mettre cette petite remarque intéressante pour dire finalement, il y a forcément là-dedans un mot que vous connaissez.
Oui, oui.
Pour vous y retrouver.
Puis je trouve qu'ils sont jolis.
Ah ben c'est pour ça que je les ai mis aussi.
Oui,
mis.
Oui.
Parce que j'ai bien le son être par exemple, qui est souvent sornette, etc. Enfin, il y a des choses, puis ils sont jolis à l'oreille. Pour moi, c'est important la musicalité des mots.
Oui, oui. Puis un petit parfum d'antan comme ça, moi je trouve ça mignon. Alors, vous ajoutez, ma réalité est de vivre dans un rêve, et mon rêve est de quitter cette réalité. Alors, pourquoi fuir la réalité ?
Pour aller dans un rêve. Mais après, là, en fait, ça tourne tout le temps. C'est-à-dire qu'aller dans un rêve, dans le sens où j'aime vivre ce que j'écris, donc ce que je vois, parce que quand j'écris, je visualise. C'est dans ce sens-là.
Oui.
C'est pour moi, c'est comme un film qui se déroule. Tout ce que j'écris, je le vois, je visualise. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment, je vis dans un autre monde. Donc, je suis dans un rêve, mais finalement, j'ai ma réalité qui finalement se rejoint, puisque la réalité et le rêve, ça revient au même au bout d'un moment.
Ouais, ouais. Et donc le rêve, vous l'avez déjà avant d'écrire ?
Oui.
Oui.
Le rêve, je l'ai déjà avant d'écrire, puis une fois que je l'ai écrit, je rêve encore plus.
D'accord, oh, c'est bon ça. Alors je vous laisse lire la préface qui va donner le ton de votre recueil Galéja des Calambres d'Aisne.
Oui, juste une remarque avant, si vous permettez.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que pour moi, les objets font partie de notre intimité, quel qu'il soit.
On en parlera
tout à l'heure ? Ok, merci. La préface donc. Des mots qui sortent de la tête, d'autres qui y entrent, à tourbillon, une danse folle. Les mots se croisent, les mots se parlent, certains crient, d'autres rient à syllabes déployées. Certains veulent être les premiers et bousculent les autres. D'autres encore pleurent et leurs larmes de voyelles s'écoulent sur le visage de l'écrivain fou, en attendant qu'on sonne pour remettre de l'ordre dans ces mots, dans ces phrases, pour qu'enfin, de toutes ces gesticulations verbales et écrites, se crée un texte, un message, un poème ou une histoire. Les mots virevoltent et se laissent envahir par une musique entêtante qui donne le rythme à leur danse effrénée. Des mots se mêlent, s'entremêlent, se chevauchent, se prennent par la cédille quand elle est là, se balancent sur des virgules, bombent leurs torses et se mettent en majuscules, position initiale. Un peu de suspension dans l'air, belles interrogations, belles vagues d'exclamations, de beaux chants s'élèvent dans les airs, et les mots, aériens, se laissent entraîner dans cette folle farandole. Les mots sont légers, les mots sont soulevés par les courants ascendants, des vents créés par le souffle de l'inspiration. Les mots minuscules sont attachés les uns aux autres, et la phrase est écrite. Tous les mots ont un rôle à jouer, un endroit où se poser. Ils composent leur histoire, se regardent, font leur choix, prennent leur place et, sous les yeux de l'auteur, encore tout tourneboulé par la valse des mots et le rythme à poser, le texte se crée, les lignes sont ajoutées et ainsi, l'histoire va pouvoir commencer. Les histoires vont pouvoir s'écrire et vivre. Vous voulez des histoires ? Vous en aurez, mais attendez-vous à l'inattendu.
Oui, effectivement. Alors, dans votre recueil, vous faites parler des objets. Les objets ont une âme ?
Oui.
Oui. Tous ?
Oui.
D'accord.
Tous parce que les objets, ça veut dire qu'ils ont été fabriqués par l'homme, par l'humain. Donc on leur a donné une âme. On leur a donné une existence. Donc ils existent. Simplement, mon idée, c'était quand on parlait de, par rapport à ma citation, c'était l'idée, c'était ça, c'est-à-dire que tous les objets faisant partie de notre intimité, ils voient des choses. Mmh. Et je leur demande toujours, ben, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire? Alors je leur ai donné la parole, et ils ne me répondent pas tous, hein. Certains sont un peu timides, comme l'humain, mais au principe ils me répondent, alors, en disant, ben, tiens finalement toi brosse à dents, qu'est-ce que t'as à raconter? Toi, qu'est-ce que t'as à raconter? Parce qu'ils sont, ils sont vraiment témoins de notre existence, de notre monde, et puis finalement, ben, peut-être qu'entre eux se parlent quand on a fini, fermé la porte de la salle de bain, quand on est parti se coucher, quand on a fermé la porte de la cuisine. Alors j'ai imaginé que finalement, dans ce rêve dont je parlais précédemment, dans ce rêve, ils se parlent, ils racontent. Et ils parlent entre eux et puis ils se disent, bah ouais, mais moi, mes sensations, j'existe, j'ai aussi des sentiments, j'ai des sensations, donc voilà, ils vivent, pour moi ils vivent.
Oui, oui, oui. Alors pourquoi avoir fait le choix des petits objets du quotidien? Dans un autre recueil, vous aviez parlé des fruits et légumes, hein, je crois, c'est ça?
Entre autres, oui. C'est-à-dire, dans le précédent recueil de nouvelles, j'avais parlé effectivement du jardin, des claviers d'ordinateur, des livres, des chaussures, enfin des accessoires. Mmh. Mais c'était abordé différemment. C'était moi qui imaginais des histoires.
D'accord.
Je les faisais pas forcément parler, enfin pas tous en tout cas, je faisais la fête, des choses comme ça. Là par contre j'ai voulu, le thème pour moi c'est je. Je suis un coton-tige, je raconte ma vie de coton-tige. Mais je voulais prendre ces petits objets parce qu'on les néglige tellement, ces pauvres objets.
Mais le choix était difficile je suppose, parce que les objets c'est pas ce qui manque.
Oui.
Dans notre quotidien.
Oui c'est ça. Mais je me suis arrêté à 44. Pourquoi? Parce que le chiffre me plaisait bien.
Ah d'accord.
J'aurais pu en prendre beaucoup plus en fait. Hein.
Oui.
Et à un moment, je m'étais arrêté 25, 26, plus, ça ne me plaisait pas. Oui. Et 44, c'était sympa parce que j'avais le 4 et 4, quoi, tout simplement.
D'accord.
Et voilà, j'aurais pu en prendre plus. Il y aura peut-être un prochain recueil, je ne sais pas.
Oui.
Mais c'est vrai, je me suis... En fait, ça me venait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis resté sur la salle de bain. Tout à coup, la bulle de savon est apparue dans ma tête. Je dis, tiens, je vais écrire aussi l'histoire de la bulle de savon. Après, la paille, j'écris la paille, enfin, etc. Et par exemple, la paille, ben, c'est vrai que ce qui m'a intéressé dans la paille, l'exemple, c'est que la paille, elle est à la fois la paille qu'on trouve dans les fermes, etc., dans les étables, et c'est aussi la paille qu'on trempe dans le verre l'été pour se rafraîchir. Mmh. Et donc, la paille se pose la question, est-ce que j'étais mieux, je serais mieux dans une terre ou je suis mieux dans le verre avec les glaçons?
Mmh.
Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, c'est de dire, ben, les objets, ils vivent, ils ont envie de vivre, puis ils se posent des questions.
Mmh, voilà. Oui. Il y en a qui, que vous avez écarté, qui ne vous parlaient pas?
Non, pas du tout.
Pas du tout?
Non, je n'en ai pas écarté. Même quand j'avais fini ma liste, je me suis dit, enfin, ma liste, une fois que j'avais fini ma 44e histoire, parce qu'elles sont venues comme ça, j'ai pas choisi l'objet. Qu'un objet qui me passait par la tête, déjà, je vais écrire une histoire sur celui-ci, je vais écrire une histoire sur celui-là. Et puis non, il y en a, mais je pense que si maintenant je me dis, tiens, allez, je vais écrire d'autres objets, d'autres viendront.
Ah d'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien. Alors, mais vous êtes particulièrement attiré par ces objets dont vous avez parlé, non?
Non,
non,
non, pas spécialement. C'est-à-dire que quand on rentre dans une pièce, quelle qu'elle soit, on se dit, tiens, finalement, bah, il est là. Bah, à quoi il sert? Le pèse-personne, c'est peut-être lui qui m'a inspiré au départ, parce que le pèse-personne, il est posé là, puis finalement, personne s'en sert, quoi.
Oh bah ça dépend.
Enfin moi non. J'ai pas besoin, il est bien. Il est content, on se regarde de temps en temps, mais on a rien à se dire quoi, c'est ça qui est intéressant. Enfin, il m'a raconté quand je lui ai posé des questions, raconte-moi ta vie en gros, mais
oui, oui.
Il a rien à me dire quoi. Moi l'aiguille elle bouge pas quand je grimpe dessus, donc ça n'a pas de sens pour lui, enfin ça n'a pas d'intérêt, il travaille pas beaucoup. Ça le dérange pas. Mais en fait c'est le personnage qui m'a pu inspirer en disant finalement, toi mon gars t'es posé là, mais qu'est-ce que tu dois t'ennuyer quoi? Tu n'as rien à faire là. Et je voulais qu'il me raconte finalement comment il est venu dans cette maison. Il était où avant? Il était dans un magasin. Pourquoi il était choisi? Pourquoi on l'a posé là? Et finalement, pourquoi aujourd'hui, bah, le pèse personne? Il pèse justement personne, ça le pèse. Enfin, le problème est là, c'est-à-dire que ces objets, je dis, ah oui, tiens. Après, j'ai pensé au peigne. Ça me concerne pas. Mais après, j'ai pensé au peigne. Je me suis dit, le peigne, c'est pareil, il se dit, la jeune fille a des longs cheveux, le monsieur, mais ça fait 3 mois que, par exemple, le père de famille lui fait la tête. Parce qu'il a perdu ses cheveux, le père de famille. Donc, le peigne dit, bah, lui, il ne sert plus à rien, quoi. Donc, ils ont aussi des, comme ça, des remarques, de dire, tu vois, finalement, je m'ennuie. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, à propos d'aiguille, j'ai aussi écrit un texte sur l'aiguille.
Oui, oui. Et d'ailleurs, une fois qu'on a lu votre ouvrage, on ne regarde plus les objets du même œil, en fait.
Oui, moi non plus.
Oui, vous non plus.
Mais ça devient compliqué, finalement.
Oui.
Ça devient compliqué, surtout sur le premier recueil, le précédent. Pourquoi? Parce que quand je dis la carotte qui est dans le frigo, je me dis, non, toi, je ne te prends pas, t'es trop petite, t'es trop jeune, je prends d'abord l'autre. Puis finalement, l'autre, elle a envie de rester parce que c'est la mère de la petite carotte. Donc finalement, je mange des pommes de terre, quoi. Au bout d'un moment, ça devient très compliqué.
Oui, oui. Moi, c'est la miette. Je ne regarde plus les miettes de la même façon.
Ah oui, elle essaye d'échapper au ramasse-miettes.
Oui, c'est ça, oui. J'ai des fois, bon, on va la laisser vivre. J'en ai chez nous deux, maintenant.
Oui, mais c'est ça, ça fait toujours plaisir. Elle est contente, elle vit un peu plus longtemps que sa vie normale, quoi.
Oui, c'est ça. Alors, je vous laisse nous lire la nouvelle qui parle de la pince à linge.
Oui, il y en a une deuxième d'ailleurs qui s'appelle Sur le fil,
oui,
par le passe à linge, qui est intéressante aussi. Donc la pince à linge. La manique se plaint que parfois je pince sa bouche sur le séchoir. C'est vrai, je me mets où je peux, mais il faut avouer que sans moi, elle et ses amis ne sécheraient pas dans de bonnes conditions. Je suis importante, je joue un rôle important. Je travaille tous les jours, mais c'est un réel plaisir d'aider. Je pince le linge, d'où mon nom. Je suis une pince à l'ancienne en bois avec un petit ressort métallique qui tient mes deux parties mobiles. J'ai travaillé sur mon arbre généalogique. Je suis remonté à 1853, date de la première génération de pince à linge. Mes arrière-grands-parents étaient américains du Vermont. Depuis, la famille n'a jamais cessé de pincer le linge. Alors, les remarques qui me sont faites ne me touchent pas. Je suis indispensable, comme toutes mes copines accrochées sur le fil à côté de moi. Nous sommes une armée au service de la population. Depuis quelques mois, sur le fil en dessous, de nouvelles venues sont arrivées. Des pinces en plastique de toutes les couleurs. Des bleus, des verts, des rouges, des blanches, des jaunes. Et j'aime bien la pince rouge juste en dessous, la troisième en partant de la gauche. Je l'ai remarquée dès son arrivée. Je crois que je l'intéresse aussi. J'ai bien remarqué qu'elle me fait les yeux doux, elle en pince pour moi. Quand je la regarde, elle devient de plus en plus rouge. J'ai le ressort qui vibre à chaque fois. J'ai beau me pincer, je sais que c'est une réalité. Je lui plais. Elle est bien ma vie de pince à linge. Je suis posé sur le fil ou rangé dans un panier avec mes amis et j'attends qu'on vienne me détacher pour aller pincer un habit, un torchon, une chemise ou une manique. Et tout ça en plein soleil ou en plein vent. J'aime le soleil. J'aime sentir cette chaleur qui m'envahit et je ferme les yeux. Ah, je ne suis jamais seul. Il y a toujours au moins une pince qui m'accompagne. Avec ma nouvelle amie, nous nous sommes débrouillés pour être côte à côte le plus souvent possible sur le fil. Alors, presque à chaque fois, nous sommes pris ensemble. Nous avons beaucoup de temps pour faire connaissance, pour discuter. Nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier. De plus en plus, nous nous attachons et avons envie d'être l'une avec l'autre. Notre amitié se transforme tout doucement en amour. Amour sur le fil. J'ai déjà dit que j'étais fier de ce que je suis, du travail que je fais. Et maintenant, j'ai rencontré la pince qu'il me fallait, qu'il me manquait pour être complètement moi, pour être accompli.
Merci. Alors c'est frais, léger, tendre, il y a de l'humour. Et ça peut être lu par toutes les générations, en fait.
Oui, c'est ça qui est intéressant. Toutes les générations, bon, quel que soit l'âge aussi, et je sais, par exemple, je travaille aussi en bénévole dans un EHPAD, et ils apprécient aussi.
Oui.
Parce qu'ils voient l'objet différemment.
Oui, oui, ben c'est ça, oui.
Une dame qui me dit, ah, ben, vous m'apportez de la vie dans ma vie, ça m'a fait plaisir, j'ai retenu cette phrase, parce qu'elle me dit, finalement, ma pince à linge, ben, c'est vrai que moi, c'était une pince à linge, point, quoi. Et mm-hmm. là, je vois que finalement, ben, peut-être que finalement, je l'ai déçu, peut-être qu'elle était contente, je ne sais pas. Et c'est très intéressant de voir aussi la réaction des gens. La surprise de dire, ah mais c'est vrai, peut-être que, on se pose des questions, peut-être que dans un autre monde, peut-être que nous finalement on ne nous entend pas, mais on converse.
C'est possible, tout est possible. Et j'ai vu aussi que vous faites des interventions dans les écoles, vous aimez le contact avec les enfants, leur fraîcheur?
Oui, j'adore ça. Bon, j'étais enseignant dans une vie précédente et j'adore ça. Et c'est vrai que ce que je voulais aussi avec les écoles, le préalable c'était de dire finalement, leur faire connaître la littérature, la poésie. Et donc, je fais ça en trois étapes dans les écoles primaires, entre autres. La première étape qui était effectivement la découverte de la poésie, les rimes et les vers, la musicalité des mots dont je parlais précédemment. Et deuxième étape, c'était créer. C'est-à-dire de dire, voilà, vous choisissez un animal quel qu'il soit. Ça n'a pas d'importance. Même si moi, j'avais projeté un de mes poèmes pour leur donner une idée, leur expliquer la versification. Et je veux, par contre, une aventure. Il se passe quelque chose. Une coccinelle part avec un sac à dos, d'accord, mais elle va où? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est partie? Elle va chez des copains, elle va à un anniversaire, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je voulais ça. Et donc chaque élève choisissait un animal et disait, ben, je veux faire une histoire. Et donc dès qu'ils avaient écrit leur première phrase, j'ai dit, je reste fidèle à cette phrase. Ce sera le départ, ce sera le premier vers. Et la troisième phase, c'était partager. Donc la lecture, partager, illustrer. Ils ont adoré.
Ah bah oui, j'imagine bien. Ah bah oui, c'est sûr. Alors j'ai vu aussi que vous aviez écrit un poème d'une longueur assez...
Ah oui, 56 pages.
Oui.
800 vers.
Oui.
Ah, c'est intéressant.
Oui.
Ouais, parce que, en fait, pareil, il s'arrête quand il veut le poème. C'est-à-dire que j'ai dit, tiens, je me considère pourquoi pas comme poète. Si je m'endors, si je rêve, combien de temps va durer mon rêve? Donc j'ai écrit le poème. Puis je verrai bien. Parce que intuitivement, sans je réfléchis en rime. Donc, ça...
Ah, d'accord.
Ah oui, la peau, j'ai plus de mal.
Pour un mathématicien, c'est.
Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Intuitivement, je pense en rime et en vers. Donc,
mais vous ne l'avez pas écrit quand même d'un seul tenant?
Ah, si. Si, d'un seul temps, parce que je dis, bah, il rêve, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il est dans son lit, à quoi il rêve? Bah, il va sur notre planète, etc., etc. Et puis quand je suis arrivé à la 50e page, c'était pas tout à fait fini, parce qu'il était pas revenu dans le lit, donc c'était pas terminé. Et à la 56e page, il avait fini. J'ai dit, ah, 800 vers, ah, on rime en vers, bah, c'est bien, le livre est terminé.
D'accord, bah, faut le faire, hein, quand même. Et vous mettez longtemps pour écrire ce genre de poème ou de...
Ah non, non, je regarde pas. Enfin, j'écris, puis ça se termine. Ça se termine, ou à la limite, je reprends le lendemain, si il commence tard, mais je peux, d'un jet, ça peut se faire sans problème.
Sans problème. Oui, oui. Et vous écrivez sur ordi ou sur, à la main?
Alors, j'écris à la main, maintenant j'écris sur ordi, parce que de toute façon, ce qui est à la main, je vais le mettre sur l'ordi après.
Oui, donc, bien sûr, mais...
Mais j'écrivais beaucoup à la main au début. Le roman policier, par contre, je l'écris à la main entièrement, mais 380 pages, bien. Mais je trouve que sur l'ordi, c'est plus intéressant, bah, d'une part pour corriger, pour y revenir, etc. etc. quoi. Oui. Puis archiver, enfin, tout ça, toute cette partie-là. Oui.
Et je trouve que la musicalité est plus importante quand on écrit à la main que quand on écrit sur l'ordi. Enfin, je ne sais pas, c'est une impression que j'ai, moi, quand j'écris.
Pour moi, pas forcément, parce que la musicalité, je l'ai dans la tête. Donc, à partir du moment où je l'ai traduit sur écran ou papier, c'est pareil. Ça ne change pas.
D'accord. Et vous avez des rites d'écriture? Vous écrivez n'importe où, n'importe comment?
N'importe où, n'importe comment.
N'importe quand, bon, d'accord.
N'importe quand. Quand ça vient, quand en ça fait. Vient. C'est-à-dire que j'ai toujours 3-4 livres en même temps, de toute façon, quand j'écris.
En cours?
Oui, toujours.
Et vous ne vous y perdez pas?
Ah, jamais.
D'accord. Et en fait, même quand vous avez un roman policier, vous pouvez avoir un roman policier en cours et puis...
Oui, je peux, oui. La difficulté, vous avez raison, sur le roman policier, je suis en train d'en faire un d'ailleurs, un autre, c'est que si on ne reste pas complètement dessus... On a tendance peut-être à le perdre, en tout cas, pas perdre la trame dans la tête et liée. Oui. Mais c'est vrai que quand je le reprends, je dis, tiens, je le relis pour dire où j'en suis, comment je fais, quelle est ma prochaine étape, comment je fais le lien avec la suite. Parce que même si je sais à peu près jusqu'où je vais aller, je ne sais pas vraiment où il va, le livre.
Ah bon? Ah, non, jamais... vous n'avez pas la chute?
Jamais.
D'accord.
Je n'ai pas de scénario, pas de script, j'écris. Et en fait, pour moi, le héros ou le personnage ou les personnages du livre font leur propre vie.
Oui, bah c'est ça, mais si vous les prenez, ils ont eu le temps de vivre leur propre vie, est-ce qu'ils sont toujours quand même cohérents?
Moi, je leur ai donné le frigo, oui. Ils ont de quoi faire. Non, ils ont de quoi vivre encore. Mais ce qui m'importe, c'est ça. Mais, par contre, ça m'est arrivé la dernière fois, je voulais reprendre le roman. Ça ne venait pas tout de suite. Je l'ai posé. Mais j'ai une autre idée qui m'est venue de suite. J'ai écrit un livre, je l'ai terminé.
D'accord.
J'ai commencé un nouveau livre, je l'ai terminé.
Vous avez mis combien de temps?
Alors, celui-ci, je l'ai écrit 2 jours et 2 nuits en continu.
D'accord. Bon, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sommeil, alors?
Ah non, très peu.
D'accord, mais c'est franchement...
Mais j'ai commencé, je l'ai terminé, j'ai envie de... Voilà, j'étais au bout. Mais j'étais content parce qu'il était en moi, et puis quand je l'ai lu, j'ai dit, ouais, c'est bien, merci, passe à autre chose, mais c'est fait. Et maintenant, le livre m'appartient plus, après il fait sa vie.
Ah d'accord. Bon, je suppose que l'écriture est différente quand vous écrivez une nouvelle ou quand vous écrivez un roman.
Oui. L'écriture est différente, même si le roman, certains me disent, ah mais même ton 4e de couverture, c'est de la poésie. Bon, ça c'est peut-être le naturel, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention à ça. Oui, c'est complètement différent, puisque la nouvelle, d'une part, c'est une histoire courte, donc la fin vient vite, quoi, on va dire. C'est-à-dire, j'ai pas de recherche spécifique, etc., ou une structure forcément respectée, etc. Dans un roman policier, j'ai fait d'autres romans non policiers, dans un roman policier, c'est vrai qu'il y a une cohérence, il y a une suite, il y a des éléments, il faut revenir en arrière, il faut reprendre, etc. Il y a une structure qui... correspondent bien, qu'on ne perde pas le lecteur, puis que je ne me perde pas non plus, par rapport au personnage qui vit en arrière, en avant, etc. Oui. Les âges, les périodes. Un autre roman que j'ai fait, oui, c'est une autre écriture, parce que c'est une écriture, j'allais dire plus terre, c'est pas ça. J'ai de l'inspiration, mais j'ai moins de folie dedans. C'est-à-dire que le roman, je vais l'avancer, je le laisse avancer tout seul. Quoi.
D'accord. Et vous avez une préférence pour une écriture ou une autre? Poésie ou nouvelle?
Ah ben, poésie, comme je dis, c'est naturel, c'est intuitif, donc forcément. Et les nouvelles, oui, parce que les nouvelles, comme vous disiez vous-même, et je vous remercie, il y a de la poésie dans aussi ce que j'écris dans les nouvelles, et j'adore ça. Mais ça va bien, quoi. C'est-à-dire que si on me dit, bah, écris un poème, je l'écris, point. Je ne me pose pas de questions. Et d'ailleurs, j'ai écrit un recueil aussi. On était 9 auteurs à avoir écrit un recueil de poèmes. Et une des auteurs me dit, Yves, maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'écrire des poèmes en prose? Je dis, ouais, moi, déjà, un poème, ce n'est pas de la prose, mais c'est compliqué. Mais j'y arrive pas. Enfin, j'ai pas l'habitude. Donc, il faut que je réfléchisse.
D'accord.
Parce que c'est pas mon truc.
Oui, donc du coup, ça manque de spontanéité.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça manque de spontanéité dans ce cas-là. Après, j'y arrive, hein, mais j'ai commencé en vers, je termine en pause. Enfin, ouais.
Merci, Yves. Alors, nous revenons après Recommence-moi une chanson de et par Santa.
Je préfère danser avec mes silences pour tout recommencer en quelques pas de danse. Et s'il ne reste plus rien du tout et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous, je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. en prière. Et s'il ne reste plus rien, oh, du tout. Et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous. Je t'écrirai une chanson pas comme les autres. Et si tout tourne, 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 ce sera la nôtre. Et si le temps change, un claquement de doigts.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors maintenant, c'est Raymond Hiss qui va nous faire la lecture de sa nouvelle Cain.
Cain, lorsqu'avec ses enfants vêtus de peau de bête, l'œil était dans la tombe et regardait Cain. Sacré Victor, il t'a bien habillé pour l'hiver, m'étais-je dit, quand le professeur de français nous avait fait lire la légende des siècles en classe de seconde. Mais cela m'a renvoyé à ma propre histoire, l'année où maman m'annonça que j'allais avoir un petit frère. Est-ce que je serais obligé d'y donner mes jouets ? Lesquels, ton nounours ? C'est toi-même qui l'as rangé au grenier. Tes copains se moquaient de toi. C'est vrai, je l'avais gardé trop longtemps, risque d'être ridicule. Maman m'avait pris par mon point faible, sans pour autant me rassurer. Mais elle m'avait quand même trompé. J'en voulais surtout à mon père. C'est sûr qu'il l'avait obligée. Elle s'était laissée faire, bonne comme elle est. Comment accorder sa confiance à un homme qui couche avec votre mère ? J'ai dû faire cette dernière réflexion plus tard, mais je devais le ressentir ainsi à l'époque. Une petite sœur, à la rigueur, mais un frère. Et pourquoi avoir attendu si longtemps pour refaire la même chose ? À moins qu'il n'ait voulu faire mieux, mieux que le brouillon. Dès que maman revint de la maternité, mes craintes se confirmèrent. Pas à cause des jouets, bien au contraire. Chaque fois que je voulais lui parler, je m'entendais répondre. « J'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Va jouer dans ta chambre. » Combien de fois l'ai-je entendu ce refrain qui me renvoyait, seul, au milieu de mes beaux jouets ? J'ai bien essayé d'être malade, mais on me répliquait. « Ah, ça tombe bien, le docteur doit venir pour ton frère. Il s'occupera de toi après. » Pas avant, mais après. Tu saisis la nuance. Quand il venait du monde à la maison, on s'agglutinait autour du berceau. Mon oncle, ma tante, et même ma grande cousine, celle qui m'avait appris à rouler en vélo. Moi, je rongeais mon frein dans le coin, près de la porte-fenêtre de la terrasse. « Tiens, voilà toi, pourquoi t'es pas dans sa chambre ?» C'est ce qu'il fallait subir lorsque quelqu'un daignait parfois s'apercevoir de ma présence. Je ne finis par ne plus la quitter. Je m'y enfermais sitôt rentré de l'école pour n'en sortir qu'au moment du repas. Et pourquoi pas un plateau dans ma chambre ? Après tout l'autre, on lui apportait bien à manger dans la sienne, qui, entre parenthèses, était la mienne, avant qu'on me déménage dans la petite au fond du couloir, loin de celle de maman. Un plateau, une gifle plutôt. Tu nous prends pour tes domestiques ? Tu crois que ta mère n'a pas assez de travail ? À qui la faute ? Le biberon toutes les 3 heures, les couches à changer en suivant, et malgré ça, il gueule toute la nuit ? Finalement, je suis mieux au fond du couloir. Mais elle, je vois bien les valises qu'elle traîne sous les yeux dès le réveil, et ses somnolences le soir, au moment du journal télévisé. Ils s'extasient tous sur la bonne bouille du bébé, mais ignorent les choucreuses de maman. Sauf moi. Et je lui ai dit. Au lieu de la réponse habituelle, elle a reconnu avec un triste sourire. « Ah, toi, tu ne m'as pas donné tant de mal. » Cette simple parole m'a consolé de sa trahison. Mais il fallait agir vite, car je le voyais dépérir de jour en jour. Au catéchisme, le curé de Saint-Joseph nous avait raconté ton histoire. J'en avais conclu que la jalousie est un vilain défaut. Moi, je n'étais pas jaloux. Je ne voulais la mort de personne. Encore moins celle de maman, vampirisée par ce... Ah oui, j'ai oublié le meilleur. Il y avait donné le même nom, il lui avait donné le même nom que ton frère. Bien sûr, tout le monde avait trouvé ça très original. Il n'y avait rien de trop beau pour la petite merveille. Pour moi, c'était ridicule et prétentieux. Passons encore si nous avions été juifs. C'était leur première sortie depuis la naissance de mon frère. On avait estimé pouvoir le laisser sous ma garde, malgré les objections de mon père que maman avait réfutées ainsi. Oh, on peut lui faire confiance, il a l'âge de raison. Il m'avait laissé le numéro de téléphone des amis, chez qui il passait la soirée. Une demi-heure avant leur départ, je suis entré dans la chambre de mon frère. Le berceau était muni de roulettes. Je l'ai tiré sur le balcon, après quoi j'ai repoussé la couverture. Le thermomètre marquait moins 12. J'ai refermé la porte-fenêtre et j'ai guetté derrière la vitre. Il s'est réveillé et s'est mis à pleurer. Son visage devint écarlate. Une heure plus tard, il avait cessé de s'agiter et sa peau avait viré au bleu. J'ai rentré le berceau dans la chambre, tiré la couverture et fermé la porte-fenêtre. Il devait être 10h30, je suis allé me coucher, comme d'habitude. J'ai été réveillé par des pas précipités dans le couloir, puis par des hurlements de maman. Quelques minutes plus tard, la sonnette, voici le docteur. Quand il est reparti, je l'ai entendu répéter à plusieurs reprises. Alors ça, je ne comprends pas, je ne comprends vraiment pas. Personne ne songea à me réveiller. Maman attendit le lendemain matin pour m'annoncer la terrible nouvelle. Elle avait dû pleurer toute la nuit, car son visage était méconnaissable. C'est sans doute cela qui m'a fait éclater en sanglots, de sorte que mes parents ne m'ont jamais posé de questions sur cette soirée. Le docteur dut revenir très souvent pour maman, et chaque fois il me regardait d'un drôle d'air, mais j'étais tellement gentil avec elle qu'il n'osait rien dire. Maman n'avait plus rien à faire à présent, sauf à s'occuper de moi. Au début, comme elle était au plus mal, je faisais les courses en rentrant de l'école, et les mercredis, je passais l'aspirateur pour qu'elle puisse se reposer. Les années passèrent et le souvenir de mon frère s'effaça progressivement de son esprit. À 38 ans, quand je quittais maman pour me marier, elle ne parlait pratiquement plus de lui. J'avais accompli le crime parfait, au point de faire oublier la victime. J'ai beaucoup pensé à toi au cours de cette période. J'avais été plus fort et aucun œil ne vient jamais me tourmenter. Quand j'étais encore gamin, j'ai déjà eu envie de t'écrire, comme on le fait au Père Noël. Enfin, au Père Fouettard, plutôt, je dirais. À l'âge adulte, j'y ai bien sûr renoncé. Jusqu'à ce soir. Je suis retourné chez maman. Elle ne va pas bien depuis quelques mois. Elle est très vieille à présent. Elle ne supporte plus personne d'autre pour le soigner. Elle ne sort plus de son lit et s'affaiblit de jour en jour. Tout s'est précipité brusquement voici une semaine. Comme je lui prenais sa tension, elle a ouvert les yeux et m'a fixé un long moment avant que j'entende ces mots qui m'ont glacé le sang. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Seul le bruit de l'appareil retombant sur le parquet lui a répondu. Je dors dans la chambre voisine, l'ancienne chambre de bébé, pour être à portée la nuit. Mais quand elle m'appelle, c'est l'autre qu'elle veut. Je me précipite au pied de son lit et je lui crie « Il est mort, Abel, et il est mort depuis 50 ans !» Elle me regarde et me redemande « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Je me retiens de lui rabattre l'oreille sur le visage pour ne plus voir ses yeux. Parfois dans la journée, je l'entends marmonner « Je ne comprends pas, je ne comprends pas. » À présent, ce sont les seules phrases qui sortent de sa bouche. Avec le nom de mon frère, qu'elle n'arrête pas de crier toutes les nuits. J'ai réussi à dissuader tout le monde de lui rendre visite, y compris son médecin. Il m'a détaillé tous les soins à dispenser, c'est pas très compliqué. Pour les autres, j'ai fait passer la consigne. Elle a perdu la tête. Je termine cette lettre. Si l'enfer existe vraiment, tu devrais la recevoir. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Nous sommes en février. Son lit médicalisé est équipé de roulettes. Il suffit de le pousser sur la terrasse.
C'est horrible, mais c'est...
C'est absolument horrible. On m'a donné quand même un prix en Suisse pour cette horreur.
Alors, pour nous mettre dans l'ambiance du roman de Paul Assier, voici une chanson d'amour, message personnel de Françoise Hardy et Michel Berger.
Au bout du téléphone, il y a votre voix. Et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire. Qui sont dans trop de films. De chansons et de livres. Je voudrais vous les dire et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas. Je veux je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps, pour vous j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver. Où je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche. J'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne le considère pas comme un problème, et cours, et cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi.
Alors nous sommes toujours avec Yves Marand et son recueil Galéja des Calambres d'Anne, publié en auto-édition, et Paul Assier pour son roman Poussière d'amour, publié également en auto-édition. Alors Paul, vous aviez déjà publié plusieurs ouvrages et Poussière d'amour est votre premier roman, une new romance. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce genre de roman?
Alors effectivement c'est
complètement différent.
C'est
hein
une bonne question, c'est complètement différent. C'est peut-être par goût littéraire, parce que en fait, il y avait une difficulté dans ce roman. C'était de pouvoir écrire des scènes érotiques, parce que ce roman comprend des scènes érotiques. C'est très difficile d'écrire des scènes érotiques.
Surtout sans tomber dans la vulgarité.
Sans tomber dans la vulgarité. Alors, d'après les premières critiques que j'ai reçues de ce roman, effectivement, j'ai réussi à ne pas tomber dans la vulgarité.
Oui, je suis d'accord.
Merci beaucoup. Et donc, c'était en fait un petit défi que je me suis posé. Et je voulais explorer ce thème de la sexualité, des rapports humains concernant l'éros, mais pour ne pas en faire, si vous voulez, le but de ce roman. Parce que vous allez le comprendre, le but de ce roman, c'est de tendre vers une autre forme d'amour. Qu'on appelle agapé. Alors, vous savez que poussière d'amour, déjà dans le titre, vous avez amour au pluriel.
Oui, on en parlera. Alors, après, parce que juste à la fin du livre, c'est inversé. Poussière d'amour, là, c'est poussière, c'est au singulier, et amour au pluriel. D'accord. Et à la fin du roman, c'est l'inverse.
Alors ça doit rester une coquille, je pense.
Ah bon ?
C'est une coquille. Non, parce que c'était absolument volontaire que ce soit poussière au singulier et amour au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs amours. Malheureusement, le français ne donne qu'un seul terme pour décrire cette émotion humaine, cette émotion sublime, humaine. Et donc, j'ai fait appel au grec pour décrire, en fait, d'autres types d'amour, comme l'éros et l'agapé. D'ailleurs, de l'éros à l'agapé, c'est le sous-titre du livre.
Oui.
Donc, poussière d'amour, amour au pluriel, poussière au singulier, de l'éros à l'agapé, en tant que sous-titre.
Alors, l'éros et l'agapé, pour nos auditeurs, un petit peu.
Alors,
l'explication,
en français, il n'y a qu'un seul mot, comme je le disais tout à fait, juste avant. Donc, on n'aime pas ses collègues de bureau, comme on aime ça, la personne qui partage notre vie. On n'aime pas ses enfants, comme on aime ses amis, ou encore son professeur, comme la Charlotte aux fraises. Voilà, donc, le français est assez pauvre pour décrire toutes ces émotions différentes. Mmh. Et donc, j'ai fait appel au grec parce que, en regardant un petit peu, je connaissais quelques termes grecs, dont l'éros et l'agapé, et au cours de mes recherches, j'en ai trouvé bien d'autres. Comme filiae, storge, pragma, ludus, etc. On ne va pas s'apesantir là-dessus parce que c'est assez compliqué. Mais le grec fait la différence entre, par exemple, l'éros, qui est l'amour charnel, l'amour physique, l'amour passionné, l'amour romantique, qui a une forte connotation de désir physique avec une empreinte émotionnelle extrêmement grande, et l'amour agapé ou agapéi, qui en fait est un amour complètement désintéressé, c'est l'amour pur, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour bienveillant, charitable, universel. Alors on prête à cet amour-là, comment dirais-je, l'idée que c'est l'amour que Dieu porterait aux hommes. Donc c'est relié, ce mot agapé en fait est relié plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament de la Bible, et donc on parle bien d'un amour qui est universel. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose que l'éros. Non. Comme philia, par exemple, est l'amour que l'on porte aux membres de sa famille, c'est tout à fait différent. Voilà. Donc ce livre, en fait, c'est un cheminement, c'est l'exploration d'un cheminement qui part de l'éros et qui va vers l'agapé, qui tend vers l'agapé, soyons prudents.
Alors, votre roman débute par un drame, le décès du père de Léa, votre héroïne, oui. Mais pas n'importe quel décès.
Tout à fait. Alors, effectivement, ce livre aborde un certain nombre de problématiques, dont le suicide. Alors, il y a beaucoup de thèmes que j'ai essayé d'aborder dans ce livre, peut-être à des dosages complètement différents les uns des autres. Et le suicide par amour en fait partie. Je suis conscient que c'est quelque chose qui peut heurter le lecteur. Est-ce que l'on peut véritablement se suicider par amour ? Donc, effectivement, après, il y a la mort, qui est aussi un thème que j'ai abordé dans ce livre, le deuil, la résilience aussi, qui suit normalement cette période de deuil. Mais il n'y a pas que ça. Comme on parlait d'Eros tout à l'heure, il y a bien évidemment la place du faire l'amour dans l'amour. Comment est-ce qu'on va gérer le pulsionnel et puis le sentimental ? Comment les faire se rejoindre ? C'est pas si évident que ça.
Non.
Il y a aussi l'expérience spirituelle. Alors, il y a un tout petit passage dans le livre où Léa est sur cette plage et elle reçoit un message, on va dire en quelque sorte un petit message, qui dépasse les expériences naturelles que l'on peut vivre au quotidien. Et donc ça touche un petit peu le thème de la continuité de la vie après la mort, et puis le thème aussi de l'évolution spirituelle vers des valeurs immatérielles. Voilà. Mm-hmm. Donc il y a plein de thèmes différents qui sont abordés dans le livre, même si ce livre fait la part belle à l'éros.
Bien sûr, voilà. Oui. Alors Léa décide de poursuivre des études de psychologie et va ouvrir un institut, une école de l'amour.
Oui, tout à fait.
Oui.
Ben, elle se rend compte finalement qu'elle est obligée de faire ça. C'est sa mission, c'est une mission. Enfin, elle le pense comme ça, qu'elle a reçue. Donc elle est obligée de le faire. Mais elle ne peut pas le faire avec tout le monde. Alors, elle va dans ses études de psychologie, elle va décrocher deux doctorats en psychologie. dont un est la question « Pourquoi la sexualité humaine existe-t-elle ? » C'est une grande question. On peut aussi se poser la question de savoir pourquoi la sexualité humaine est différente de la sexualité animale. Pourquoi est-ce qu'il y a cette composante dans la sexualité humaine qui veut peut-être nous dire autre chose, nous dire quelque chose de supplémentaire par rapport à la sexualité animale ? Est-ce que vraiment elle est uniquement animale ? Bon. Et donc elle va finalement... Elle a conservé le café de son père.
Oui.
Justement pour faire des rencontres et pour choisir les personnes qu'elle juge compatibles.
Oui.
Voilà, qu'elle juge compatibles, qu'elle juge avec une ouverture d'esprit suffisante pour la suivre dans sa folie. Parce que finalement, c'est une petite folie. Et donc, alors le lecteur va la suivre dans sa folie, va freiner un petit peu sur certains aspects, va être d'accord, va être moins d'accord. Mais moi, j'avais envie de la mener au bout de cette folie, pour qu'elle puisse créer cette école de l'amour, cet institut, pour que finalement les gens qui ont passé sur tous les petits problèmes de jalousie, que l'on peut considérer dans une relation humaine normale, traditionnelle, puissent tendre vers quelque chose de supérieur, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort.
Mm-hmm.
Voilà.
Alors vous écrivez, je vous cite, c'est Léa qui parle devant ses élèves. Donc Léa continue avec beaucoup de talent et de persuasion à décrire la vision presque chrétienne du don de soi, de son corps, de sa sexualité envers une pluralité de récipiendaires. Débarrassée de la jalousie, de l'envie, de la convoitise et habillée de générosité, d'abandon et de bienveillance, cette pensée aurait pu être enseignée dans les milieux religieux, à condition toutefois de porter un regard foncièrement différent sur les plaisirs de la chair. Vous croyez vraiment à cette vision du don de soi ?
Alors déjà, c'est un personnage... alors, pour répondre, je vais prendre un biais pour répondre à votre question. Un auteur de thriller n'est pas un psychopathe qui n'arrête pas de tuer du matin au soir. Non, et pourtant, elle écrit des thrillers, des romans... Voilà. Donc, je ne suis pas Léa.
Oui, bah,
j'ai créé un personnage qui pense ça. Et donc, effectivement, on peut se demander la légitimité de ce que pense Léa. Est-ce qu'elle a raison d'aller dans ce sens-là ? Mmh. Voilà. Donc, la fin du roman donne une petite réponse à cette question-là. Mais je pense que ça valait la peine. Elle devait le vivre. Elle devait vivre ce qu'elle a vécu pour justement en tirer des conclusions et des conséquences.
Oui.
Donc, je ne vais pas dévoiler la fin du roman.
Non, bah bien sûr.
Mais effectivement, dans la sexualité sans restriction, avec tout le monde, c'est utopique, oui, certainement, dans notre société, bien évidemment. Parce que nous avons des facteurs sociaux, émotionnels, pratiques. C'est cette pratique est finalement très difficile à réaliser. On est confronté toujours à la jalousie, à la rivalité, à la possessivité. Aux normes sociales, aux normes éducationnelles, aux normes religieuses, aux croyances, voilà. Donc c'est très difficile de parler de ce concept-là. Après, ça reste donc un roman, donc ça reste quelque chose qui doit faire rêver les gens, peut-être les choquer un peu, et les faire sortir de leur zone de confort.
Oui, les faire réfléchir.
Et les faire réfléchir, tout ça.
Oui, oui, c'est sûr. Alors... C'est vrai que l'amour pluriel rappelle fortement la mini-révolution de 1968, mais depuis, la société a évolué, elle s'est un peu corsetée, non, maintenant ?
Oui, effectivement. Et c'est d'autant plus difficile de porter ce message qu'en fait, l'éros est en quelque sorte le marchepied ou la rampe de lancement qui pourrait aider les gens à se projeter vers un amour différent, qui est l'amour inconditionnel. Mmh. Donc, c'est un peu l'idée récurrente de ce livre-là. Je pense qu'il n'y a pas énormément de rapport avec ce qui se passait lors de la libération des années 68, etc. Donc il n'y a pas, véritablement de rapport. Moi, en fait, j'ai pas du tout pensé à ça quand j'ai écrit ça. J'ai vraiment pensé à cette volonté d'expliquer que finalement la sexualité humaine, c'est quelque chose qui a été apporté aux hommes pour leur montrer quelque chose. Il y avait un enseignement derrière. Mmh. Il y avait quelque chose. Il fallait dépasser un certain nombre de choses qui sont tellement ancrées dans notre société que c'était extrêmement difficile à faire. Mais il faut le dépasser pour tendre vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau.
Oui. Mais en même temps, c'est un peu utopique, Léa est quand même très très utopique, je trouve, parce que est-ce qu'à terme, la pluralité des partenaires, ne génère pas de l'insécurité dans un couple constitué ? Et quid de la paternité ?
Effectivement, c'est une question que je me suis posée quand j'ai écrit ce livre. La fin du roman explique qu'effectivement, il y a des limites. Il y a des limites. Et donc, ce n'est pas quelque chose que l'on peut imaginer perdurer de manière, et se répandre sur toute la planète, ou que tout le monde fasse exactement comme ceci. Voilà, ça reste une petite poignée qui se sert de cette construction de la sexualité pour aller vers quelque chose d'autre. Mmh. Mais une fois que la mission est accomplie, une fois que le but est atteint, les choses... peut-être vont s'arrêter.
Oui, parce que vous parlez d'amour, don universel, mais cependant, dans votre roman, tous les protagonistes sont jeunes et beaux, il n'y a pas d'hommes et de femmes d'âge mûr, c'est pas une ségrégation, quelque part ? Pourquoi n'a-t-elle choisi que des jeunes ?
Peut-être pour faire rêver.
Oui, c'est ça. D'accord. Ça fait pas un peu société de consommation, cette façon de changer de partenaire, d'avoir plusieurs partenaires, on consomme et puis après, on jette, mais on
non,
passe à autre
non,
chose.
Non, c'est pas du tout l'idée de consommer et de jeter. En fait, les personnages font l'amour ensemble, mais dans le but de donner. Mm. Donc consommer, c'est prendre. Mm. Le désir, c'est vouloir se faire plaisir. Mm. Donc c'est dans l'autre sens. En fait, il ne faut pas comprendre ce que je décris dans les livres comme étant quelque chose qui vise à la satisfaction personnelle de chacun. Ça vise à la satisfaction de l'autre, ce qui est complètement différent. Mmh. C'est la première étape vers l'amour inconditionnel.
Oui,
donner de sa personne, donner de son cœur, donner de son corps pour que l'autre puisse... en bénéficier, mm-hmm. et non pas soi-même.
Oui. Alors, il y a beaucoup de scènes épicées dans votre récit. Alors, ça doit être difficile d'écrire des scènes de sexe en vulgarité, justement.
Ben écoutez, oui, c'était
c'est un
assez,
défi
assez difficile. C'était un défi. Effectivement, prenez par exemple le fait d'en parler. Essayez de décrire oralement une scène.
Je ne vous le demanderai pas, oui.
Mais c'est encore plus difficile.
Oui.
Donc, en fait... les mots, et là, ni Yves, ni Raymond ne me contrediront, les mots permettent de dépasser certaines difficultés et puis de rendre un petit peu ça plus poétique et plus accessible. Et donc moi, j'aurais été incapable de décrire oralement ce genre de scène. Par contre, l'écriture permet de le faire.
Mm-hmm.
Et permet en plus, en choisissant les mots adéquats, de mettre un petit peu de poésie.
Oui, c'est vrai.
Parce que le livre n'est pas exempt de poésie.
Alors, on dit toujours qu'un auteur dévoile un peu de lui dans ses romans. Alors, poussière d'amour, expérience ou fantasme ?
Non, c'est une exploration de la sexualité humaine aussi. Mmh. C'est dire que finalement, le sexe pour le sexe, ben non, ça n'a aucun intérêt. Le sexe pour nous montrer quelque chose de plus grand que lui, oui. C'est un peu, en deux phrases, le roman.
Mmh. Alors, est-ce que c'est encore possible d'écrire ce genre de roman aujourd'hui ? Vous n'avez pas peur d'être taxé de perversion avec les mouvements MeToo et le fait qu'il y a de plus en plus de censeurs, notamment sur les réseaux sociaux ?
Non, absolument pas.
Vous n'avez pas peur ?
Non, absolument pas.
D'accord.
Non.
Parce que c'est quand même un peu particulier et je pense que maintenant, il y a plein de gens qui sont à l'affût de...
Oui, non, franchement, non, j'ai pas eu de remarques... désobligeante ou de critique dans ce sens, non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, je suis prêt à y répondre, il n'y a pas de problème.
Mm-hmm. Alors justement, moi je croyais que ça avait été voulu. Vu la précision de votre vocabulaire, je pensais que poussière d'amour, qui dans le titre de votre roman, poussière s'écrit au singulier et amour au pluriel, et page 288, poussière est au pluriel et amour est au singulier. Donc je pensais que c'était voulu.
Non, écoutez, ce n'est pas voulu. Je suis en train de vérifier en même temps, mais c'est une 288.
Oui.
Non, je ne le vois pas.
Bon, on regardera après.
Non, c'est une coquille.
D'accord.
Si c'est le cas, c'est une coquille.
Parce que, compte tenu de l'histoire, je pensais que ça pouvait avoir un sens, effectivement.
Oui.
Ça ne m'a pas troublé, j'ai juste remarqué.
Vous ne m'avez pas interrogé sur le mot poussière, par exemple, parce que là,
allons-y.
J'ai eu des remarques.
Ah bon ?
Sur le mot poussière.
Allez-y.
C'est sale, c'est quelque chose qu'on enlève, c'est quelque chose dont on veut se débarrasser, c'est pas propre, etc.
Ah bon ? Non, moi, je voyais ça plutôt poussière, des petits morceaux de...
Est-ce que je peux vous lire un tout petit passage ?
Oui.
Justement sur la poussière, pour expliquer aux auditeurs. Donc en fait, je suis avec... Léa est sur la plage et elle visualise quelque chose. J'étais dans une sphère d'amour puissante, lumineuse, enveloppante, chaude. Tu sais, elle s'adresse à son compagnon, Jean-Pierre. C'était comme un rayon de soleil qui révèle toutes les petites particules en suspension dans l'air. Subitement, j'étais enveloppé dans un nuage de poussière d'amour qui scintillait tout autour de moi. Et chaque grain irradiait sa bienveillance extrême, que je savais véritable. C'était de l'amour pur, l'amour de la source. Les mots me manquent. Je ne pourrais jamais le décrire à la hauteur de ce que c'était vraiment.
Mm-hmm. Moi, je voyais plutôt des petites poussières d'or dans le ciel.
Voilà,
c'est ça. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça.
Oui. Alors, vous avez l'intention de poursuivre dans ce registre ou vous allez reprendre...
Alors, pourquoi pas ? Pour l'instant, j'ai entamé un nouvel essai, mais je pense que ce livre-là mérite peut-être un second volume qui fasse, lui, la part belle à l'agapé.
Mm-hmm.
Comme ce premier volume a fait la part belle à l'éros.
Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, le temps passe très très vite, nous arrivons à la fin. Vous avez d'autres projets d'écriture, alors Yves ?
Oui. J'ai mon roman policier à terminer.
Oui.
Et j'ai un recueil de nouvelles et j'ai un recueil de poèmes. Un collectif, on fait avec 10 auteurs de toute la France métropolitaine. On travaille dessus. Et je viens de terminer aussi un recueil de nouvelles que j'ai fait avec une école primaire.
Mmh.
Et puis j'ai des ateliers d'écriture en médiathèque. Enfin, j'ai plein de choses en ce moment.
Mmh.
Non, mais, oui, j'ai toujours de quoi écrire.
Vraiment ? Un roman en cours ?
Oh, bah, une uchronie pour changer un peu. Ça ne fera que la quatrième.
Mmh.
Napoléon Dédé d'Alger. Napoléon sur la route de cette île, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans l'Atlantique Sud, tout le monde l'a oublié, a été délivré par des pirates barbaresques. Il arrivait à Alger et il est devenu Dé d'Alger à la suite de l'assassinat opportun du titulaire de la fonction. Et bon, évidemment, il ne pense qu'à une seule chose, c'est liquider définitivement les Bourbons.
D'accord. Et Paul, un essai sur quoi ?
Alors, l'essai va porter sur la lumière, je ne vais pas trahir un secret. Sur la lumière après le temps et la réalité. Donc c'est aussi quelque chose qui est fascinant, parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi la lumière est la lumière.
D'accord. Et les essais, ça demande plus de temps que d'écrire un roman ?
Oui, beaucoup plus de temps.
Oui, beaucoup plus, oui.
Beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de réflexion, alors qu'un roman, quand on a la trame en tête, voilà, c'est un assemblage, je dirais.
Mm-hmm.
On a la trame, on a l'histoire, on a... les briques, il n'y a plus qu'à les assembler. Voilà. L'essai, c'est un exercice différent. Moi, je pense que ça prend plus de temps à mettre en place.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à Yves Marande d'être venu nous parler de son recueil Galéja des Calambres d'Aisne, publié en auto-édition. Merci à Paul Astier qui nous a présenté son roman Poussière d'amour, publié également en auto-édition. Merci à Raymond Hiss qui nous a fait la lecture de sa nouvelle Quin. Et merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Alors nous quittons avec The Look of Love de Diana Krall.
Merci Mona, merci à tous.
Merci.
And what my heart has heard. takes my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face, a look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss.